Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Salut, c'est Lucie, vous écoutez l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B qui s'apprête à commencer. Au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, on ralentit en centre-ville. Deux interviews, d'abord pour vous donner envie de regarder un documentaire sur l'université, merci Arte. Puis pour annoncer Aimons-nous vivants, programmation écolo pensée par Printemps Bruyant. Il y aura de la musique dont une nouveauté et puis une recommandation d'exposition. Bienvenue dans l'Arène. Chaque jour, on commence cette émission d'info locale avec une info retenue pour vous dans l'actualité locale. Aujourd'hui, on parle de la limitation de la vitesse à 30 km/h en centre-ville. Une mesure adoptée en conseil municipal à la ville de Rennes au printemps. Il faut commencer par rappeler que 75% des voies de circulation étaient déjà concernées par cette limitation. Depuis lundi 4 septembre, 94% des 600 km de voies passent donc aux 30 km/h. Les axes structurants d'entrée et de sortie de ville sont épargnés. Objectif principal de cette démarche, c'est de réduire le nombre et la gravité des accidents de la route. Et il y a un chiffre parlant sur ce sujet. Lors d'une collision entre un piéton ou cycliste et une voiture, la victime a 9 chances de survie sur 10 à 30 km/h et seulement 2 chances sur 10 à 50 km/h. Cette mesure, elle vise aussi, vous le devinez, à participer à l'apaisement du centre-ville. À noter que dans la métropole rennaise, les communes de Saint-Jacques-de-la-Lande, Chantepie, Vezin-le-Coquet et Chavagnes viennent de rejoindre une liste de 12 communes dans la métropole qui avaient déjà adopté la ville à 30 km/h, à l'image de 250 villes en tout à l'échelle européenne. Voilà pour l'info du jour. Tout de suite, une première interview. Thomas Loubière et Clémence Moulet-Prévost, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Thomas, vous êtes le réalisateur du documentaire « Prof de fac, la vocation à l'épreuve », c'est à voir sur la plateforme d'Arte, arte.tv. Là, vous nous parlez depuis Paris, depuis la région parisienne. Clémence, vous êtes l'un des personnages de ce documentaire, personnage bien réel, et vous êtes avec nous en studio ici à Canal B. Alors le documentaire, il est sorti au mois de juillet, il est toujours visible en accès libre jusqu'au 5 décembre sur arte.tv. C'est une plongée de 50 minutes entre les murs de l'université Rennes 2, produite par la Générale de Production. Il s'agit de votre deuxième réalisation, Thomas Loubière. Vous vous intéressez en fait à un milieu que vous avez pratiqué d'abord en tant qu'étudiant, mais aussi en tant que fils de prof, je ne dis pas de bêtises.
Ben non, c'est ça. J'ai un papa qui a enseigné longtemps à Paris 8. Moi, je suis passé aussi par la fac. J'ai étudié là-bas pendant 5 ans la sociologie et la science politique. Et ça a été c'était des années très épanouissantes pour moi. Donc voilà, c'est un milieu, c'est un écosystème, l'université française, que j'avais à cœur d'arpenter, de révéler et puis de raconter le quotidien de ces enseignants-chercheurs, donc ceux qui travaillent, la cheville ouvrière de ces universités, ceux qui donnent des cours, ceux qui font de la recherche, ceux qui sont vraiment au cœur de notre enseignement supérieur français.
Pour tourner, vous êtes donc mis en quête d'une université où poser votre caméra. L'université de Rennes 2 avait l'avantage de cocher plusieurs cases. Vous ne l'avez pas choisi au hasard, je peux vous laisser dire pourquoi ?
Non, je ne l'ai pas choisi au hasard. Ceci dit, c'est ça qui est intéressant, enfin, qui est éloquent dans ce film, c'est qu'il aurait pu se tourner dans toutes les universités, je crois qu'il y en a 68, enfin environ 70, dans les 70 universités françaises, parce que toutes les universités manquent de personnel, d'enseignants-chercheurs, de personnel administratif aussi, et manquent de moyens de manière plus générale. Mais Rennes 2 m'a convaincu, enfin en tout cas, voilà, c'est d'abord des rencontres, hein, c'est un film qui se fait sur le temps long. J'ai filmé pendant un an donc Clémence, Colin, Baptiste, enfin différents enseignants-chercheurs à différents niveaux. Donc c'est d'abord, avant tout, la rencontre avec eux qui m'a fait poser ma caméra à Rennes. Mais c'est vrai que j'avais à cœur de filmer une université de sciences humaines et sociales où les conditions de travail sont les plus dures, une université qui défend sa mission de service public, ce qui est le cas aussi à Rennes 2. Et puis bon, il y a aussi un campus, donc visuellement, pour un film, moi j'étais content d'avoir un... Parce que le film, c'est pas un huis clos, on n'est pas que à l'université, on va aussi chez Clémence, on sort parfois, mais c'est l'enceinte, c'est le décor principal du film. Donc j'étais content que visuellement, il y a un campus qui est assez beau, qui est assez accueillant, d'ailleurs à Rennes 2, donc ça c'était une raison supplémentaire. Et puis c'est pas trop loin de Paris, et donc comme j'ai fait beaucoup d'allers-retours pendant un an, bah c'était pas mal aussi. C'est une université de taille moyenne, il y a 20 000 étudiants, donc c'est à peu près, c'est dans la moyenne, c'est une université de taille moyenne.
Une université de taille moyenne, mais avec un des centres de recherche et d'enseignement supérieur en arts, lettres, langues et sciences humaines et sociales le plus important dans l'Ouest. Vous avez donc tourné de juin 2021 à septembre 2022. Il y a aussi ensuite eu tout le temps de montage qu'on imagine pour un film documentaire. Et ce film, il aborde donc deux thèmes. D'abord, celui du recours aux vacataires à l'université à travers votre parcours, Clémence Moulet-Prévost. On vous retrouve dans ce film sur la fin de votre travail de thèse autour de ce sujet, la gestion du patrimoine chypriote. Donc ça représente plus de 7 ans d'études et de recherches. Dans le même temps, là, au moment de boucler votre thèse, vous êtes contractuel, c'est ça ? On explique un peu, parce qu'il y a tellement de contrats différents, de jargon. À quel moment on vous retrouve dans ce film-là ?
Oui, effectivement, il y a beaucoup de types de contrats différents. On me retrouve donc à la rentrée 2021-2022. J'étais sous contrat LRU, donc c'est un contrat à temps partiel de l'université qui rémunère pour des enseignements, des charges de cours en fait sur un semestre ou deux semestres. C'est assez variable et c'est un type de contrat qui rémunère uniquement pour les cours que l'on donne, pas pour la préparation, pas pour les corrections des copies, les surveillances d'examen, ce genre de choses.
Avec un tarif horaire qui est inférieur à celui du SMIC, c'est vrai ça ?
Alors en fait, c'est un calcul un peu savant qui nous fait arriver à ce constat-là, mais ce constat est vrai. Donc c'est un type de contrat qui rémunère l'heure d'enseignement 40 euros brut. Et quand on soustrait à ces 40 euros bruts
la préparation,
l'heure d'enseignement, plus la préparation, plus les copies à corriger, les surveillances d'examen, l'université admet, c'est dans ses petits papiers administratifs, que tout ça, ça représente pour une heure de cours, c'est à peu près 4 heures de travail. Donc quand on divise 40 euros bruts par 4 heures de travail effectif, ben on arrive à un taux horaire inférieur au SMIC.
Des jeunes chercheurs comme vous qui donnent des cours, il y en a beaucoup. Ils dispensent en fait un quart des cours à l'université. Et donc là, ces conditions de rémunération qui sont assez précaires quand même, ça oblige beaucoup à travailler à côté. Ce qui fait qu'on sort de l'université pour vous retrouver dans un musée, Rennais, le plus connu. Et même ce travail-là, vous avez eu du mal à le décrocher. Vous vous mettez la pression pour y rester.
Oui, parce que j'ai cherché longtemps un emploi alimentaire qui puisse se conjuguer à mes activités de recherche, donc pendant ma thèse, et à mes activités d'enseignement aussi, parce que je voulais continuer à enseigner, c'était important pour moi. Donc voilà, j'ai mis beaucoup de temps à trouver un emploi qui conjugue un peu tout ça, et j'ai eu la chance d'obtenir ce contrat au Musée des Beaux-Arts de Rennes, que je salue et que je remercie encore, parce que ça a été une très bonne expérience.
Avec un lien quand même avec vos
recherches. Avec un lien tout à fait, mais avec mes recherches, puisqu'en plus ils ont une collection archéologique. Donc j'ai pu travailler auprès des publics, ça a été passionnant pour moi, même si voilà, c'est sûr que c'était fatigant aussi de faire des allers-retours entre la fac, le musée, mes recherches, les enseignements, voilà. Donc c'était des grosses journées.
Moi, quand je suis rentrée en thèse, je me suis dit, à 26 ans, t'as terminé. Je vais avoir 31 ans, c'est du coup.
La prétention, bravo.
Tu vois, l'âge moyen d'entrer en thèse, c'est 29 ans, l'âge moyen de sortie, c'est 34. Donc en fait, oui, à 34 ans, t'es un jeune chercheur. Mais c'est en avance.
Et je pense que le facteur est agréable.
Voilà, si pour vous rassurer, on est en avance, on aura soutenu avant 34. Hein. Voilà, on est carrément dans les clous.
J'ai fait un prêt au début de mon doctorat et c'était prêt où tu peux commencer le remboursement, tu sais, plus tard. Et donc 3 ans plus tard, je retourne à la banque en disant bah alors du coup, j'ai pas fini. Est-ce que c'est quoi les solutions? Et mon banquier fait mais personne fait de thèse en 3 ans. Et j'étais genre oui, bah maintenant je sais, mais je savais pas.
Moi, j'ai pu me permettre de gagner peu parce que je vivais avec quelqu'un qui gagnait confortablement sa vie pour deux, quoi. Seul, je pouvais. Enfin, non. On m'avait parlé beaucoup avec mon compagnon, quoi. J'essayais de lui. Il comprenait, mais lui était dans la position qui était plus facile parce que c'est lui qui gagnait bien sa vie. Mais c'est ô combien difficile de savoir que tu fais ce travail parce que tu peux compter sur des gens et que seul, en fait, tu le ferais pas.
Au-delà de tout ce qu'on a déjà évoqué, c'est. Faut vraiment que ce soit difficile jusqu'au bout, qu'on soit méritant jusqu'au bout.
Ouais.
Et vraiment, pour si espérer, peut-être, qu'on nous dise qu'on c'est est légitime d'avoir fait ce qu'on a fait, quoi. Et là, mais non, mais c'est pas possible, quoi.
Quand tu tombes amoureux de ton agresseur, je sais
pas. C'est
comme voilà.
Extrait de prof de fac, la vocation à l'épreuve, un documentaire à voir donc sur arte.tv jusqu'à la fin de l'année, documentaire de Thomas Loubière qui est avec nous aujourd'hui et puis également en studio Clémence Moulet-Prévost qu'on vient d'entendre avec un groupe d'amis également chercheuses. Ça donne à voir que votre cas n'est pas isolé, on parle bien d'une situation générale et dans ce documentaire, donc on voit à la fois votre passion, la fatigue avec plein de casquettes qui sont cumulées et des doutes aussi partagés.
Bah, beaucoup de doutes, je crois que ça fait partie intégrante de la formation en doctorat. Le doctorat, c'est une formation à la recherche par la recherche, on est encadré par un ou plusieurs directeurs de recherche. Et quand ça se passe très bien, ce qui a été mon cas d'ailleurs, on doute quand même énormément de soi, de ses recherches, des résultats qu'on obtient. On sait plein de choses. On peut s'appuyer sur toutes nos recherches et des choses que l'on sait et que l'on peut expliquer facilement. Et en même temps, c'est vrai que c'est un milieu où, tout au long de la thèse et même après, hein, puisque j'ai pu en parler avec mes collègues qui sont eux en poste, qui sont titulaires, ça reste le cas aussi après. On a finalement assez peu de retours. On est toujours un peu seul face à nos recherches, à nos résultats. Il faut toujours se battre pour convaincre, se battre pour obtenir des financements pour pouvoir continuer ses recherches.
Et donc l'objectif, on va dire, final de devenir enseignante-chercheuse peut paraître parfois assez lointain et on peut se demander si on y parviendra.
Oui, alors ça vient peut-être pas tout de suite, puisqu'au début, et c'est ce que cet extrait que vous passez montre un peu, peu importe le milieu d'où l'on vient, moi j'ai pas du tout eu une famille d'universitaires, et c'est vrai que comme mon amie qui, elle, vient d'une famille d'universitaires, je suis arrivée là un petit peu naïvement en me disant « mais voilà, c'est super, c'est ça que je veux faire, c'est ça le sens que j'ai envie de donner à mon métier et à mes activités ». Professionnel. Donc au début, je trouve quand même qu'il y a généralement une forme de naïveté au départ de la thèse où on se dit, bah voilà, je vais faire ma thèse en 3 ans. Allez, 4 ans max, 5 si jamais il y a un problème. C'est les moyennes, ça. Hein. Il y a une loi qui est passée, c'était en 2016, qui a un petit peu réformé le doctorat et qui limite maintenant à 6 ans. Mais avant 2016, c'était pas le cas. Hein. Il y avait pas de. C'était 9 ans. À peu près la limite.
Un temps long qui, du coup, est générateur de doutes. Et c'est là que je pose la question à Thomas Loubière. Comment est-ce qu'on filme le doute ? Est-ce que c'est difficile de réussir à se faire oublier avec sa caméra, là, qu'on imagine dans cette scène, dans le salon, pour faire naître des prises de parole spontanées ?
En fait, ce qui est très important dans ces cas-là, c'est d'avoir un lien de confiance entre les protagonistes du film et puis l'équipe de tournage. Donc déjà, on est deux, hein, ou trois maximum, mais on est deux sur le tournage. Donc moi et le ou la chef opérateur. Et l'important, voilà, c'est de se faire confiance. Ça, c'est le temps long aussi. Le temps long filmé sur un an même un peu plus. Et puis, au-delà des moments où on filme, il y a tout un tas de moments où on discute, on déjeune, on se balade, on déambule sur le campus. En fait, on passe du temps ensemble. Et ce film, on le fait ensemble, en accord les uns avec les autres. Et d'ailleurs, il peut y avoir des moments de friction, des moments de défiance, des moments où on se dit « mais jusqu'où on va ?» Comment ? Enfin, l'important, et ça, c'est aussi une éthique pour moi de documentariste, enfin, c'est de travailler avec les protagonistes du film pour aller au plus proche de ce qu'ils sont, pour essayer de donner une image juste d'eux-mêmes, qui s'y retrouvent à la fin, et effectivement, avoir aussi capté des moments qui peuvent être des moments intimes, des moments de fébrilité, et pas pour faire du larmoyant, pas pour faire du misérabilisme, parce que c'est la réalité, comme vient de le dire Clémence, c'est la réalité d'une grande partie de doctorants et de docteurs qui ne trouvent pas de travail à la hauteur de leurs compétences et qui ne trouvent pas de travail et pas de fonction dans la société, enfin de, je sais pas comment le dire, mais qui se sentent pas légitimes, quoi. Donc voilà, il fallait ce degré d'intimité pour rendre compte de l'ampleur du problème.
Le documentaire, il a été réalisé sur l'année scolaire 2021-2022. À la fin de ce film, Clémence Moulet-Prévost vous confie songer à l'enseignement plutôt en secondaire, mais vous décrochez finalement un CDD d'un an comme attaché temporaire d'enseignement à l'université Rennes 2. Les auditeurs, s'ils ont vu le film, se demandent que s'est-il passé depuis.
Donc c'était effectivement un contrat d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche.
Et de recherche, puisque ça vous tient à cœur.
C'est ça. Et c'est surtout que c'est le seul contrat à temps complet en CDD de l'université. Et selon moi, c'est un peu le seul contrat digne, puisqu'on est rémunéré, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, à l'inverse des autres contrats, on est rémunéré pour la préparation des cours, les enseignements, les corrections, les surveillances, et aussi pour les activités de recherche qu'on a tout au long de l'année. Donc voilà, j'ai passé une année extrêmement dense en enseignement déjà, parce que j'ai fait 192 heures d'enseignement sur l'année. Ce qui n'était jamais arrivé auparavant, je n'avais pas le droit de dépasser un certain nombre d'heures sur l'année avec les autres contrats.
Enseignement, le redit, en histoire de l'art et archéologie.
Tout à fait, et voilà, donc une année très dense, aussi parce que j'ai été prévenue un peu tard de ce poste, et que notamment j'ai eu des cours magistraux que je n'avais jamais fait auparavant, qu'il a fallu préparer un petit peu à flux tendu toute l'année. Et ça a été effectivement très difficile. Et en même temps, ça m'a appris énormément de choses, notamment ces séances-là un petit peu difficiles où je me sentais en difficulté par rapport à mes propres exigences, surtout. Ça m'a énormément appris sur les dynamiques de l'enseignement, le rythme d'apprentissage des étudiants, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Voilà, c'est ça que j'aime aussi énormément dans ce métier, et c'est ça qui me confirme que j'adore ce métier d'enseignant-chercheur. C'est que notamment pour la partie enseignement, on est tout le temps en train de s'adapter, on est tout le temps en train de se corriger soi-même, d'essayer de faire mieux la séance d'après.
Et il s'agit d'un contrat donc qui vient tout juste de se terminer, qui n'a pas été renouvelé. Il se passe quoi après ?
Oui, voilà, ça n'a pas été renouvelé. C'est un contrat d'un an qui est renouvelable une fois pour les non-fonctionnaires. Et il se trouve que mon contrat n'a pas été renouvelé. J'ai donc terminé mon contrat le 31 août. Et là, aujourd'hui, hier plutôt, je me suis inscrite à Pôle emploi.
Est-ce que le secondaire est toujours dans votre tête ?
Le secondaire est toujours dans ma tête. Je n'ai pas de concours ni CAPES ni agrégation. Donc ça, c'est... quelque chose qui me trotte effectivement beaucoup dans la tête. Le concours, c'est en février, mars, donc il va falloir songer à ça. Mais dans un premier temps, j'ai d'autres projets en cours, notamment d'obtenir la qualification pour être maître de conférence. Et ensuite, je travaille aussi depuis cette année, en fait, en même temps que mon contrat ATER. Je travaille sur un projet de demande de financement pour un postdoc. Le postdoc, c'est un contrat uniquement recherche.
Après la thèse, une fois qu'on a fait
sa thèse, tout à fait. Pour faire un projet de recherche pur. Et là, moi, j'aimerais postuler à un financement européen pour financer un projet sur 2 ans.
Toujours à Chypre.
Toujours à Chypre.
Je reviens vers Thomas Loubière pour quelques dernières questions sur le second volet du film, on va dire un film toujours à voir sur arte.tv. Ce deuxième volet du documentaire, il se déroule en fait en compagnie des deux co-directeurs du département Histoire de l'art et archéologie de l'université à Rennes 2. Alors déjà, on découvre que diriger un département, moi je pensais qu'on était mieux rémunéré, pas du tout, on bénéficie d'une décharge donc de 25 heures où on n'est pas face aux étudiants mais plutôt en train de gérer des tâches administratives qui s'accumulent d'ailleurs. C'est ça qui est un peu décrit dans votre documentaire, Thomas Loubière, une augmentation des tâches administratives, des élèves parfois procéduriers aussi.
Oui, alors donc voilà, c'est un peu les deux volets de l'université, enfin des enseignants-chercheurs. Il y a ceux qui, comme Clémence, donc les vacataires, et qui quand même donnent un quart des cours à l'université, sont mal payés en contrat déterminé. Et le deuxième volet, c'est effectivement ceux qui sont titulaires. Donc eux, ouf, ils sont fonctionnaires, ils ont un salaire, ils n'ont pas de problème de précarité. Hein, mais
par contre, il y a d'autres difficultés qui arrivent.
Il y a d'autres difficultés, c'est une forme de crise de sens, c'est-à-dire que normalement, ils pensaient enseigner et faire de la recherche, hein, c'est un peu 50-50, et en fait, ils se retrouvent, c'est ce que Colin dit à un moment dans le film, un des deux directeurs du département, il dit, bah, il y a 50% de recherche, 50% d'enseignement et 50% de tâches administratives. C'est-à-dire qu'en fait, face à ce manque de moyens et à ce manque de personnel que connaît l'université, les enseignants-chercheurs ont de plus en plus de tâches à absorber, dont une partie qui n'était pas censée leur être dévolue, c'est des tâches administratives, donc créer des emplois du temps, réorganiser des maquettes de cours, répondre à des mails, gérer les travaux qu'on va faire dans le bâtiment B ou C cette année, qui va dans quelle classe, enfin il y a tout un tas de tâches invisibles que les enseignants-chercheurs font. Alors, il y a un peu de personnel administratif à l'université, mais tout le monde est en sous-effectif. Donc voilà, ils croulent sous l'eau. Et donc, effectivement, être aujourd'hui à l'université, être directeur ou co-directeur d'un département, eh ben, en fait, c'est une tannée. Donc, on arrive à une situation ubuesque à l'université de Rennes 2, là, dans le département que j'ai suivi, c'est que personne ne veut diriger le département d'histoire de l'art. Colin et Baptiste, c'est des mandats de 2 ans. Ils arrivent en fin de mandat et personne ne veut les remplacer. Il y a une forme de désillusion qui est terrible, quoi, dans ce constat. De désillusion, d'abattement et de se dire bon ben chacun pour sa pomme, c'est trop dur, il y a la souffrance au travail est réelle, elle est tellement présente que ben c'est des stratégies de repli. Chacun essaye de sauver sa pomme au sein de l'université française, quoi.
À un moment dans le film, et imaginer la solution de désigner donc un enseignant pour prendre la direction. On découvre sur la fin du film documentaire que un ou une des enseignantes se porte finalement volontaire pour succéder donc à Colin Debuche et Baptiste Brun, les deux anciens co-directeurs du département Histoire de l'art et archéologie à l'université Rennes 2. Bon, la question qui arrive à la fin du visionnage de ce documentaire de 50 minutes, je redis son titre, Prof de fac, la vocation à l'épreuve, c'est est-ce qu'on est sur une question de budget, ce qu'on entend, hein, est-ce qu'on arrive aussi à une des conséquences de cette massification de l'accès aux études supérieures et donc avec des budgets qui n'ont pas suivi, comment est-ce que vous l'analysez ?
En fait, comme dans l'ensemble des services publics, hein, on connaît ça bien dans le domaine de la santé, dans les hôpitaux, mais dans le domaine de la justice, c'est pareil. On parle beaucoup de l'école, là, c'est la rentrée en primaire, secondaire. Il y a un manque de moyens à l'université qui est très important, un manque de moyens et un manque de personnel. En 10 ans, il y a eu 200 000 environ étudiants en plus sur les bancs de l'université. Mais le nombre d'enseignants-chercheurs, lui, a complètement stagné, voire même a diminué.
Il a baissé.
Des parents en retraite ne sont pas remplacés.
Mais il y a des études là, qui sont sorties récemment en lien avec la rentrée au team universitaire. Et il y a des graphiques hein, qui sont très très clairs là-dessus. Le taux d'encadrement entre 2010 et aujourd'hui a été réduit à peau de chagrin en fait, à l'université. Et ça rend compte d'un manque de moyens directement pour les recrutements, pour maintenir un niveau d'encadrement à l'université qui soit stable déjà et qui soit correct pour les étudiants et pour les agents, les enseignants-chercheurs qui travaillent à l'université et qui puissent travailler dans de bonnes conditions en fait.
Ou alors il faut revenir sur ce rêve qu'on a vendu aux jeunes étudiants d'accéder gratuitement à des études à l'université dans le domaine de leur choix, ce qui aujourd'hui est le cas. Est-ce qu'il faut s'attendre à un retour en arrière sur cette question ?
C'est un projet fabuleux l'université, c'est-à-dire que tout le monde en France a moins de 50 km de chez lui peut trouver une université, s'y inscrire, si, et ça coûte, c'est quasiment gratuit, 400-500 euros l'année, mais avec la Sécu, et dans un nombre de domaines incroyable, toutes les disciplines sont représentées, enfin c'est quand même un, et tout le monde peut s'y former quasiment. Donc c'est un idéal, c'est un rêve fabuleux. Le problème, c'est que ce modèle est cassé petit à petit. Donc le privé, qui est subventionné lui aussi par l'argent public, par nos impôts, prend de l'ampleur. De plus en plus d'étudiants vont dans le privé, parce que l'université a mauvaise presse. Mais elle a mauvaise presse, puisque évidemment les conditions de travail pour ceux qui enseignent sont mauvaises, comme on vient de le dire. Donc c'est, voilà, l'université est en train de dépérir, malheureusement. Et c'est une question de politique publique, c'est une question de volonté politique. C'est est-ce qu'on investit ou non de l'argent, l'argent public, dans l'université ?
Des questions en tout cas qui sont particulièrement d'actualité là en cette rentrée scolaire en début du mois de septembre et à explorer dans un documentaire de 50 minutes, c'est à voir sur arte.tv jusqu'au 5 décembre prochain. Le titre du documentaire « Prof de fac, la vocation à l'épreuve », vous l'avez réalisé Thomas Loubière et dedans on y découvre Clémence Moulet-Prévost qui était aussi en studio ici à Canal B. Merci à tous les deux d'être venus.
Merci beaucoup.
Bah, merci.
Et on se quitte avec un titre musical qui est dans la bande-son de ce documentaire, dans sa version originale, c'est le morceau « Clémence en vacances » d'Anne Sylvestre. Merci beaucoup à tous les deux.
On l'a dit à la grand-mère, qui l'a dit à son voisin, le voisin à la bouchère à son gamin qui, tête folle, n'a rien eu de plus urgent que de le dire à l'école, à son voisin Pierre-Jean. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment en enfance, Clémence va bien. Ça sembla d'abord étrange, on s'interrogea un peu sur ce qui parfois dérange la raison de certains vieux. Si quelques mauvaises chutes avaient pu l'handicaper, ou encore une dispute avec ce brave Honoré. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment en enfance, Clémence va bien. Puis on apprit par son gendre qu'il ne s'était rien passé, mais simplement qu'à l'entendre, elle en avait fait assez. Bien qu'ayant toutes ses jambes, elle reste en son fauteuil, un peu de malice flambe parfois au bord de son œil. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment en enfance, Clémence va bien. Honoré, c'est bien dommage, doit tout faire à la maison, la cuisine et le ménage, le linge et les commissions. Quand il essaie de lui dire de coudre un bouton perdu, elle répond dans un sourire, va, j'ai bien assez cousu. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment en enfance, Clémence va bien. C'est la maîtresse d'école qui l'a dit au pharmacien, Clémence est devenue folle, paraît qu'elle ne fait plus rien. Mais selon l'apothicaire, dans l'histoire le plus fort n'est pas qu'elle ne veuille rien faire, mais n'en ait aucun remords. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment enfance, Clémence va bien. Je suis de bon voisinage, on me salue couramment, loin de moi l'idée peu sage d'inquiéter les braves gens. Mais les grands-mères commencent de rire et parler tout bas, la maladie de Clémence pourrait bien s'étendre là. Toutes les Clémences prendraient des vacances, elles ne feraient plus rien. Toutes les Clémences, comme en enfance, elles seraient bien. Clément se prendrait des vacances.
Clémence en vacances par Anne Sylvestre sur Canal B, un titre à retrouver sur l'album Comment je m'appelle, sorti en 1977. C'est le 12e disque de la chanteuse où on retrouve notamment le titre Les gens qui doutent. Vous écoutez Canal B sur le 94.0 ou peut-être en ligne sur canalb.fr en train d'écouter donc La Reine, émission d'information locale qui a quitté les réseaux sociaux, je le répète un peu là en ce début de saison radiophonique. À la place, je vous propose désormais de suivre le programme sur le site internet et également via une newsletter hebdomadaire. L'idée, ce sera de mettre en valeur chaque semaine un reportage, une interview et puis une info. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me le dire par email à l'adresse lucie@canalb.fr. L'émission d'info locale continue avec tout de suite une deuxième interview. Célia Penfornis, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes l'une des cofondatrices de Printemps Bruyant, une association rennaise qui défend une culture partagée de l'écologie. Et avec vous, on annonce aujourd'hui les trois premiers événements d'Aimons-nous vivants, une programmation qui va vivre sa première saison. Et donc ces trois premiers temps forts, c'est du 7 au 9 septembre. On va donner le détail dans un instant. Pour commencer, Printemps Bruyant, moi c'est une association que je connaissais surtout à travers ses newsletters, ses courriers d'information où on y trouvait, on y trouve encore des recommandations de choses à lire, à vivre, des choses inspirantes plutôt dans le champ de l'écologie. On redit comment est née cette association, c'était en 2020, on imagine peut-être pendant un confinement.
Tout à fait, pendant un printemps un peu particulier de 2020, où en effet on était enfermés chez nous, toutes et tous, et avec Zeynep Morali, donc, qui est la cofondatrice de l'association, on s'échangeait justement beaucoup de podcasts, d'articles ou de lectures qui nous permettaient un petit peu de tenir la tête hors de l'eau pendant cette période si particulière. Et surtout d'avoir envie, comme beaucoup à l'époque, de changer de mode de vie, de rapport au monde. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a créé l'association, parce qu'on se disait que peut-être ces pensées-là qui sont plutôt réjouissantes, plutôt mobilisantes pour une autre manière de vivre et de faire société, et ben on avait envie de les partager au-delà de nous deux qui nous échangeions ces contenus-là, et donc de le faire plus largement en créant une association et en essayant de développer un projet là-dessus.
Comment est-ce qu'on peut vous présenter toutes les deux? J'ai vu que vous, Célia, vous avez été dans le passé dans une association bien connue qui s'appelle Comptoir du Doc. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvés autour de ce sujet de l'écologie avec Zeynep Morali?
Alors à ce moment-là, donc, non seulement il y avait le confinement et puis on était toutes les deux en pause professionnelle. Moi, j'aime bien dire que je faisais un peu, c'est comme une jachère, un moment de repos où on se ressource et puis on réfléchit à qu'est-ce qu'on pourrait faire qui nous tient à cœur et qui nous permet d'être bien dans ce qu'on fait. Et voilà, on était toutes les deux aussi dans ce moment-là. Moi, donc, j'avais travaillé longtemps à Comptoir du Doc. Donc moi, c'était plutôt les côtés éducation populaire, collectif, voilà, faire vivre des collectifs et puis faire de la politique autrement. Enfin, le côté politique aussi que peut avoir la culture en faisant les choses ensemble de manière collective. Et Zeynep a plutôt un parcours, elle, à l'international sur la coopération culturelle. Voilà, nous, on se connaissait depuis très longtemps. Et puis, l'écologie, oui, elle est venue du fait de ce confinement. Alors, je ne l'ai pas dit, mais Printemps Bruyant, c'est aussi une référence à une de nos lectures du moment qui était Printemps Silencieux, qui est un livre écrit en 62 par une biologiste américaine qui attire l'attention à ce moment-là, donc il y a maintenant 60 ans, sur le danger des pesticides qui commencent à se répandre partout aux États-Unis et au fait que ça tue les insectes, et ça tue les insectes, ça tue les oiseaux, et il n'y a plus de champs d'oiseaux, donc c'était aussi cet écho-là que ça faisait à ce moment-là de ce confinement. Et du coup, pour répondre à votre question sur nos parcours, c'était cette idée d'être en pause et de cette prise de conscience, quoi, qu'on va quand même un peu droit dans le mur, et donc comment la culture peut y contribuer. Peut-être on peut y revenir.
À éviter
le mur, à passer au-dessus, en dessous ou à côté.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé en 3 ans de vie chez Printemps Bruyant, au-delà de ces newsletters, je crois qu'ils sont mensuels, hein, vous avez aussi organisé des événements
Alors, elles étaient mensuelles au début parce qu'on avait plus de temps, puisqu'on était toutes les deux en pause, mais en fait, on a repris toutes les deux à côté des activités professionnelles. Hein. Printemps Bruyant, c'est une activité bénévole. Donc voilà, elles sont maintenant plutôt tous les deux mois. La première année, en fait, on a surtout beaucoup rencontré des acteurs du terrain ici sur Rennes, Rennes Métropole et puis la Bretagne pour voir un petit peu comment notre projet qui était de parler d'écologie autrement par le biais culturel pouvait faire écho et pouvait surtout nous permettre de faire des choses avec des gens et pas créer justement encore de l'événementiel en plus, mais plutôt voilà, coopérer, faire des choses ensemble, mettre en avant d'autres initiatives. Donc on a vraiment plutôt la première année fait cette... exercice de terrain et de rencontre. Et puis la deuxième année, on a commencé à collaborer avec des festivals, par exemple comme J'agis pour ma planète à Chartres de Bretagne, avec aussi les transmusicales dans le cadre de leurs rencontres et débats. Voilà, on a commencé à programmer, on va dire, des choses, des balades botaniques, voilà, des propositions qui nous semblaient. Et puis on a rencontré aussi les acteurs, par exemple comme les Champs Libres, dans l'idée de se dire, vous qui invitez des gens, qu'est-ce que nous on peut faire à côté, en se greffant à ces invitations de penseurs qui sont, voilà, qui sont déjà là. Comment nous, on peut à côté faire en plus pour étoffer et pour donner peut-être aussi l'accès à d'autres publics sur ces questions-là.
Parce que c'est vrai qu'à Rennes, il faut dire qu'il y a un terrain qui est quand même particulièrement riche dans le champ de l'écologie. C'est un bon endroit pour lancer Printemps Bruyant, je pense. mais justement, il se passe beaucoup de choses de façon parfois pas coordonnée. Mmh. L'idée, c'est aussi de rendre tout ça plus visible.
Alors c'était, je parle au passé, c'est toujours un projet, mais c'est vraiment l'idée, cette idée de relier les initiatives. Après, pour ça, il faut du temps. Malheureusement, on manque de temps nous-mêmes puisqu'on est dans d'autres activités professionnelles à côté. Donc voilà, ça pour l'instant, on essaie de le faire, mais on l'a un peu quand même mis de côté. Mais l'idée, c'était surtout dans le terreau actuel, enfin de la métropole, du département ou de la région, il y a des choses, donc des l'aspect militant de l'écologie avec des associations qui se mobilisent et heureusement qu'elles sont là. Et puis la tendance de la culture actuelle qui est plutôt à comment on parle, voilà, d'éco-responsabilité, donc des choses qui sont plutôt toujours sur cet aspect du chiffre, plutôt de la contrainte et qui nous semblent pas forcément les manières les plus motivante, mobilisante pour changer nos pratiques en fait. Et donc notre réflexion, elle est plutôt de vouloir, voilà, vraiment changer de culture, avoir un autre rapport au monde qui est beaucoup plus global que juste de changer des petites choses à la marge, mais de penser le monde autrement.
Autour de vous deux, Célia Penfornis et Zeynep Morali, il y a aujourd'hui une quarantaine d'adhérents dans l'association Printemps Bruyant. Là, on se retrouve aujourd'hui car vous lancez la saison 1 d'Aimons-nous vivants, une programmation pour parler d'écologie autrement, sous forme de rencontres, de performances, mais aussi de balades. Et les trois premiers temps forts, les trois premiers épisodes, c'est du 7 au 9 septembre dans Rennes et sa région un peu plus large. On va y venir. Comment est née l'idée d'une série donc d'événements avec un peu un langage propre à la série audiovisuelle? Il y a donc une saison, des épisodes. C'est peut-être la première réalisation concrète vraiment de l'association.
Oui, disons que ça c'est aussi issu des échanges avec les adhérents. C'était de se dire que pour l'instant, on faisait justement des choses plutôt en se greffant à d'autres événements et que là, on a eu envie aussi de donner un petit peu notre tempo, même si ces événements-là qui sont organisés le sont avec d'autres structures culturelles, avec d'autres partenaires. Donc on garde ce cap-là, mais plutôt à notre initiative. Voilà, ça faisait longtemps qu'on avait envie de mettre en avant par exemple la maison d'édition Wild Project, donc c'était l'occasion de les inviter et de construire quelque chose autour des pensées justement qu'ils défendent. Et puis peut-être pour revenir sur la question précédente, dans les adhérents qu'on a, c'est aussi l'idée de Printemps Bruyant, dans cette idée de relier aussi des énergies, c'était d'accompagner des projets, d'avoir aussi des gens dans ce collectif qui sont des gens qui eux-mêmes porte des projets. Donc par exemple l'équipe de Cui-Cui, le fanzine que vous aviez reçu et qu'on va remettre à l'honneur jeudi aux Ateliers du Vent, ce sont voilà des écologues qui avaient envie de travailler avec des artistes sur un projet de fanzine, et donc nous au sein de Printemps Bruyant, on a pu accompagner ce projet là et là l'idée de décliner, alors en épisode, bon c'était un peu pour la com hein, puisqu'il faut faire de la communication,
faut donner envie,
voilà. C'est un peu l'anti-Netflix, on se dit bah voilà, lâchons les écrans et venons se retrouver en présence, en chair et en os.
Et ça se passera donc pendant 3 jours. Le public, il va pouvoir venir échanger donc avec des penseurs, des chercheurs, mais aussi des artistes. Ce sera voilà, une programmation un peu transdisciplinaire. Et il y a un défi central, celui de trouver comment réhabiter nos territoires de façon plus durable. Premier épisode ou événement, ce sera le jeudi 7 septembre, direction les Ateliers du Vent, ici à Rennes, pour découvrir un fanzine dont on a déjà donc parlé dans cette émission au printemps. Ce fanzine, il s'appelle Cui-Cui. Le deuxième numéro est en préparation et là on pourra donc rencontrer deux des illustratrices. Comment est-ce qu'on peut juste décrire cet objet-là en quelques mots aux auditeurs qui ne l'ont pas encore feuilleté? Cui-Cui.
Cui-cuis,
un bel objet.
Un objet, ouais, graphique et poétique, voilà, qui a pour ambition de raconter justement les territoires où l'on habite, avec tous les autres habitants de ces territoires, c'est-à-dire aussi la flore, la faune qui nous entoure et qu'on ne connaît pas forcément. C'est là-dessus vraiment qu'on se retrouve, c'est-à-dire c'est de faire ce constat qu'on est quand même depuis des quelques décennies à vivre un peu hors sol, voire même très largement hors sol, et que cette idée, voilà, de se réancrer, de réhabiter, elle est intéressante parce qu'elle permet de rendre très très concrète et très réelle, oui, cette notion d'écologie en fait. Et Cui-cui est vraiment dans cette idée-là aussi, de manière un peu pop, voilà, avec des illustrations sympathiques, avec des haïkus, avec une manière de parler aussi.
Qui fait envie.
Qui donne envie, exactement.
Et donc, Aurore Chapon et Anaïs Rayo seront présentes, deux des illustratrices de ce fanzine Cui-cui. Elles seront présentes pour présenter leur projet qui est porté par Fanzine Édition. Il y aura aussi de la musique avec Julie Seyé, donc dans la soirée qui débutera à partir de 19h30 aux Ateliers du Vent, et c'est une soirée à prix libre. Vous venez de citer Marin Schaffner, qui est auteur et éditeur chez Wild Project, un projet marseillais. Eh bien, on le retrouve le vendredi, alors là on va sortir de Rennes, rendez-vous à Montcontour, c'est dans les Côtes d'Armor, à un peu plus d'une heure de Rennes, et la rencontre se passera entre les murs d'une librairie, puisque ça fait sens, ce sera pour découvrir à la fois une maison d'édition et deux auteurs dont l'une est aussi journaliste. On raconte ce qui va se passer.
Oui, une première rencontre donc avec à la fois les éditions Wild Project et en effet Agnès Sinaï qui est journaliste environnementale et autrice qui travaille avec son institut Momentum là, qui questionne l'anthropocène sur notamment une nouvelle étude qu'ils ont lancée autour du bassin versant du Gouët
dans les
Côtes d'Armor, d'où la librairie aussi dans les Côtes d'Armor, avec un libraire qui, comme beaucoup de libraires, alors là je prends mon autre casquette parce que je travaille aussi, enfin je travaille à Livre et Lecture en Bretagne, et dans ces nouvelles librairies qui se sont créées ces dernières années, il y a des gens qui arrivaient d'autres parcours professionnels. Donc Wilfried qui tient la librairie à Montcontour travaillait avant dans le secteur de l'eau. Donc voilà, on va beaucoup parler d'eau pendant ces deux soirées du vendredi et puis l'après-midi du jeudi. Voilà, c'est quand même un élément central de nos conditions de vie et de la future ou pas future habitabilité de la Terre. On a besoin de l'eau. Et donc cette soirée-là, voilà, c'est un échange dans cette charmante librairie et ces charmantes communes de Montcontour.
Juste pour réexpliquer l'anthropocène en deux mots, c'est cette période qui dure depuis un moment à partir de laquelle l'homme a eu un impact, on va dire, sur ce qui l'entoure dans son environnement. La soirée, là, pour en apprendre plus sur ce qu'on vient un peu d'évoquer, ça commencera à 18h à la librairie Abri des Temps à Montcontour dans les Côtes d'Armor, en compagnie donc d'Agnès Sinaï et de Marin Schaffner. Le troisième épisode, mais sans doute pas le dernier, vous allez nous le dire, il y aura une suite à ces trois premiers épisodes. Troisième épisode de cette saison 1 d'Aimons-nous vivants, ça se passe samedi, retour à Rennes, aux Ateliers du Vent, dans le quartier Clenay, Courrouze. Ça commencera à partir de 14h30 avec là un grand temps d'échange où on va retrouver des interlocuteurs de la veille et puis d'autres, justement là dans une transdisciplinarité.
Ouais, tout à fait. C'était aussi cette idée dès le départ à Printemps Bruyant de prendre cette manière de traiter l'écologie de manière globale ou holistique, comme on veut dire. En tout cas, en faisant se croiser, diverses pensées là-dessus. Et donc là, on aura en effet à nouveau Marin Schaffner qui présentera ses éditions Wild Project qui ont 15 ans, qui ont fêté leurs 15 ans cette année. Et en 15 titres, voilà, une présentation 15 ans, 15 titres, ça sur la première heure de l'après-midi. Et puis ensuite, donc oui, un grand temps d'échange, un peu workshop, mais tout à fait ouvert au public pour justement découvrir cette notion de biorégionalisme que eux défendent et qui nous parle pas mal, mais avec aussi d'autres invités, notamment locaux, des artistes rennais ou à côté de Rennes, comme Catherine Duverger, qui avait par exemple fait un travail très intéressant autour de la sèche en résidence photo au Carré d'Art à Chartres-de-Bretagne, ou Alexis Fichet, qui lui a travaillé à la fois sur le guide de la vallée de la Vilaine, et puis plus récemment aussi les fables du Belon dans le cadre de l'Atlas des rivières de Bretagne avec Eau et Rivières de Bretagne et la coopérative Cuesta. Et puis il y aura aussi Frédéric Barbe qui est un géographe et qui lui vient de Nantes et qui parlera plutôt de la Loire. Enfin voilà, un moment d'émulation collective sur ces questions-là et dans l'idée bien sûr de toucher un public néophyte sur ces questions-là, parce que c'est vraiment, comme on le disait tout à l'heure, des manières de parler très concrètes en fait d'écologie. Et puis l'aspect artistique qui nous intéresse, c'est aussi comment on en parle autrement, ça peut être par bien sûr le biais de création artistique.
Pour de juste expliquer brièvement ce qu'est le biorégionalisme, est-ce qu'on peut dire que c'est penser l'écologie mais à l'échelle de son territoire avec ses spécificités
Oui, c'est une manière en fait, voilà, comme on le disait tout à l'heure, de se réancrer, de réhabiter, de penser des territoires non plus par leurs frontières administratives mais bien par aussi ce qui les constitue géologiquement, géographiquement, les rivières, les forêts, les montagnes, qui est voilà, une manière concrète et aussi poétique. Et la dernière partie, pardon, mais de cet après-midi, c'est une lecture performée par Julie, justement, dont on parlait, qui sera aussi là le jeudi soir, voilà, qui mettra en musique et en voix des textes de ces corpus d'invités.
Une rencontre qui commencera à 14h30 le samedi 9 septembre. Ça se passe aux Ateliers du Vent à Rennes et ça se poursuivra jusqu'au début de soirée. Hein, c'est ça, juste sur les coups de 20h.
Oui, tout à fait. Un apéro à la fin.
Ça donne envie. C'est bien de le dire. Et c'est là aussi, à prix libre, je vous représente Célia Penfornis. Vous êtes l'une des deux cofondatrices de Printemps Bruyant, cette association rennaise lancée en 2020 qui défend une culture partagée de l'écologie. Les trois premiers événements démons-nous vivant une programmation pour parler d'écologie autrement. Ça se passe du 7 au 9 septembre à Rennes et à Montcontour dans les Côtes d'Armor. Le prix est libre pour les événements. Pour plus d'infos, il y a soit un événement, des événements Facebook dédiés et puis la newsletter de Printemps Bruyant à laquelle vous pouvez vous inscrire en envoyant un message à l'adresse printempsbruyant@gmail.com. Dernier élément, c'est une initiative qui est soutenue par le ministère de la Culture, la DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles en Bretagne, et puis par Rennes, Ville et Métropole. Est-ce que j'ai oublié des choses
Non, on n'a rien oublié, sinon de dire qu'en effet, il y aura sans doute des épisodes à suivre, notamment prochainement une programmation avec mes amis et anciens collègues de Comptoir du Doc pour une séance revers au cinéma Arvor en novembre.
On aura sûrement l'occasion d'annoncer ça dans l'émission d'information locale. Merci beaucoup, Célia.
Merci beaucoup. 43 degrees Celsius, I'm trying to make a hit. Gio made a bowl of pasta, it was beyond the lick. Yo, I'm into real talk, not trying to live a myth. Sarigama, what you know about this? I got chili in the sauce, chili on my tongue. Chili in the sky and chili in the sun. I got chili in the sauce, chili on my tongue. Chili in the sky, yeah, we burn it hot, burn it hot. That's why the day goes stop, even before we begun. We burn it hot, smoking hot. Thought I could take the heat, but I could take it now. We burn it hot, turn it hot. Eating vegetables, cause that meat will surely rot. Slow motion for me, slow motion for me. Bring the ocean to me, bring the ocean to me. It's Frank Ocean for me. Hot par Allo Walla sur Canal B. Une nouveauté musicale puisque le morceau est sorti le 16 juin sur un EP. Tough Gains, c'est son nom, a été produit par X-Ray Productions et un album, le premier, est déjà annoncé pour 2024 par ce groupe incarné au chant par la rappeuse US Shivani Allo Walla.
Et on se dirige doucement vers la fin de l'émission d'information locale du jour. Avant de se quitter, une recommandation d'exposition. Ça se passe à l'instantané, l'espace expo de la Maison des Associations à Rennes. On est 6 cours des Alliés. Toute footballeuse, c'est le titre de l'expo, propose de découvrir le travail des Dégommeuses, une association sportive parisienne qui, au moment du mondial de football féminin en 2019, a lancé un appel aux graphistes pour créer un visuel. Les propositions, elles sont à découvrir, à redécouvrir plutôt, du 5 septembre au 28 octobre à la Maison des Associations de Rennes, quelques semaines seulement après la fin du mondial féminin édition 2023. L'occasion de redire qu'aujourd'hui, malgré la médiatisation croissante des compétitions féminines, le football est un bon exemple de discipline sportive considérée comme naturellement masculine. C'est ce qu'on lit sur le site de l'Instantané, qui accueillera dans le prolongement de l'exposition un atelier de création. Ça se passera mercredi 25 octobre et deux créneaux seront proposés l'après-midi pour fabriquer son portrait de footballeuse. Ce sera gratuit à partir de 10 ans. Pour plus d'infos, il y a le site l'Instantané. Instantané-exposition.fr. La Reine, c'est terminé. Une émission d'info locale qui se veut réflexive et combative à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus. Salut.